Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauché.
19h19 sur RTL. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir Virginie
bonsoir,
Leguet.
Bonsoir.
Avec le président de Sinopia. Bonsoir Alexandre Malafaille.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec le conseiller du visuel. Bonsoir Xavier Couture.
Bonsoir Marco. Bonsoir à
et
tous.
Et comme tous les jeudis, Olivier Mazerolle de RTL. Bonsoir.
Bonsoir
Olivier. Le Sénat déclare la guerre à l'Élysée. Vous avez compris. C'est le gros titre du jour. Son bureau a donc décidé de saisir la justice sur les cas de Benalla, de Vincent Crass, mais aussi, et ça pèse beaucoup plus lourd, sur trois proches d'Emmanuel Macron, très proches, même le secrétaire général de l'Élysée, son directeur de cabinet, et puis le général responsable de la sécurité du président, Édouard Philippe, volontairement, hein, n'est pas allé au palais du Luxembourg cet après-midi pour répondre aux questions des sénateurs. Donc, Benjamin Griveaux lui dénonce une décision fondée ni en fait ni en droit. C'est politiquement bas, moralement très grave. Gérard Larcher assure n'être en guerre avec personne. Alors, on va débriefer cette crise politique sur la longueur. On refait le monde, le fond, la forme, ce que ça implique, comment on en sort, la réforme constitutionnelle qui arrive. Bref, on va se poser ce soir, avant en fin d'émission, un sujet beaucoup plus léger pour faire plaisir à Olivier Mazerolle, Michael Jackson. Hein, Olivier.
C'est pas léger.
C'est pas très léger.
C'est pas
très
c'est pas léger du tout. S'il s'est tapé des petits garçons, ça n'a rien de léger. Hein.
C'est vrai, c'est mal dit, mais disons que ce n'est pas un sujet politique. Un sujet... Mais bon, en tout cas, on en parlera tout à l'heure. En attendant, la crise politique, c'est peut-être plus léger que Michael Jackson. Vous avez raison, en fait. Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, il n'y a peut-être pas de guerre, Marco, mais les internautes ont choisi leur camp et beaucoup applaudissent le Sénat. Alza soupire même. Il est fort, ce Benalla, à réussir à prouver que le Sénat pouvait finalement être utile. Riez, mais encore heureux que la majorité au Sénat ne soit pas en marche, sinon il n'y aurait même pas eu de discussion. La justice n'aurait pas été sollicitée. D'ailleurs, il faudra voir ce qu'elle en fait, cette justice. J'ai comme un doute. D'autres, comme Jean-Paul, trouvent choquant qu'on ne réfléchisse pas au regard du droit, mais surtout à quel effet vont avoir sur certaines personnes ce fait de leur nuire. Aurore Berger tweet en effet pour le gouvernement que détourner nos institutions au profit d'un procès politique dont l'issue était connue à l'avance, voilà ce que dit la décision du Sénat. S'attaquer à l'entourage du président et à de hauts fonctionnaires qui servent l'État ne grandit pas l'institution. Pouvoir présenter devant la justice des hauts fonctionnaires de l'État dont le comportement est fautif, c'est précisément ce qui grandit les institutions de notre pays, lui répond Bismatoge. Pas de manipulation, il n'avait pas à mentir sous serment, c'est facile, confirme Aline. Marc trouve même que c'est une bonne chose, il faut arrêter tout cinéma et mettre derrière les barreaux ceux qui se sont moqués des Français et de la justice. Non, le pouvoir du Sénat, c'est de valider les lois quand c'est son tour, pas de harceler le président pour essayer de le faire tomber, s'indigne Lebda. Mais oui, le Sénat se réveille parce qu'il sait qu'on va en virer un tiers, ricane Fabien. Mais l'usine trouve quand même dingue que le gouvernement ose en réponse boycotter Larcher, l'une des têtes du Parlement, de la représentation nationale. Non mais oh les mecs, quel culot. Et Jérôme de conclure, je sais pas pourquoi, mais je sens que le grand débat pourrait aboutir à la suppression du Sénat.
On va commencer par la fin de la journée, on va remonter le fil ensemble, Olivier Mazerolle. Déjà, donc, le Premier ministre qui sèche, qui boude, Richard Ferrand qui demain annule son déplacement avec Gérard Larcher en région. Ils ont raison.
Non, je ne crois pas qu'ils aient raison parce que c'est surdimensionné ou en tout cas, vous savez, quand on réagit aussi brutalement, de deux choses l'une, ou c'est un acte d'autorité qui refuse que d'autres puissent vous contester d'une manière ou d'une autre, même s'il reste dans la légalité, ou bien au contraire, c'est un acte de faiblesse, parce qu'on dit il y a peut-être quelque chose à se reprocher, et donc il faut qu'on bloque l'opération au plus vite. Dans les deux cas, c'est une erreur, à mon sens. Voilà, Édouard Philippe aurait dû tenir son rôle.
D'y aller.
D'aller au Sénat, répondre aux questions, ou sinon lui personnellement en tout cas être présent, comme il le fait chaque jeudi, et Richard Ferrand aurait dû aller expliquer, ça aurait pu être animé d'ailleurs devant les étudiants de Sciences Po à Lille, expliquer quel était, en compagnie de Gérard Larcher, le rôle des institutions. Ils auraient pu d'ailleurs ne pas être d'accord, et ça aurait été certainement riche d'enseignements pour les futurs, pour les étudiants
de Sciences Po. Sciences Po. Ouais, Xavier Couture.
À mon sens,
on reste d'abord là-dessus, puis après on va démêler le fil, hein, évidemment, ouais, de toute la journée.
Mais... Il y a tout de même une rivalité de fait sur cette enquête entre une Assemblée nationale qui, malheureusement, je dirais pour elle, n'a pas voulu diligenter d'enquête et s'est fait faire un tout petit peu la leçon par un Sénat qui a été beaucoup plus prompt à engager cette enquête. Après, évidemment, la commission dirigée par Philippe Bas, elle fait son boulot. Et le rapport, il est ce qu'il est. Et d'ailleurs, il faut pas non plus raconter de blagues. On n'est pas face à la justice. Le Sénat se contente de transmettre les éléments dont ils sont en sa possession avec un soupçon. Alors, sur Kras et sur Benalla, ils sont absolument intraitables. C'est épouvantable ce qu'ils racontent. C'est plus ennuyeux parce que pour les trois autres, ils sont pas tout à fait traités de la même manière. Il y a des soupçons, mais pas rien d'avéré, rien de constitué en ce qui concerne Lavergne et Colère. En revanche, sur Patrick Stroza, là, il y a un véritable soupçon de faux témoignage constitué. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Quelle que soit la bonne volonté de Gérard Larcher, il y a un moment où il est face à un bureau qui est constitué de républicains et de socialistes qui sont d'accord pour transmettre. Ils sont d'accord pour transmettre parce qu'ils disent l'un et l'autre, on ne peut pas faire une enquête et puis ensuite nous déjuger nous-mêmes en ne transmettant pas. Donc ils transmettent et de ce point de vue-là, je ne comprends pas très bien ce qu'a dit Richard Ferrand. C'est un affaiblissement du Sénat c'est un affaiblissement du Sénat. On ne peut pas être moi là, on ne peut pas simultanément abaisser et promouvoir le Parlement. Ben, je suis désolé, s'il n'avait pas transmis, je pense qu'effectivement le Parlement aurait été abaissé.
L'Assemblée nationale s'est déjà abaissée elle-même en étant incapable de mener ses travaux à terme et en étant incapable de poursuivre les auditions qu'elle avait commencé à convoquer lorsqu'elle a ouvert sa commission d'enquête. Heureusement, d'une certaine façon, que le Sénat, lui, a travaillé. Et les débats ont été menés extrêmement précisément par Philippe Bas, qui avait bien conscience que le rôle du Sénat, c'est de contrôler le gouvernement et de ne surtout pas contrôler l'action du président de la République.
Mais excusez-moi, je vous interromps là-dessus. Vous avez entendu Alain Duhamel, peut-être tout à l'heure, rappeler que jusqu'à là, rien à dire, c'est dans leur préconisation qu'ils sont sortis de leur rôle et c'est là où ils ont mordu la ligne.
On verra s'ils ont mordu la ligne.
Enfin, c'est son interprétation, en tout cas.
Oui, c'est ça. On verra. Pour l'instant, ils ont transmis au bureau.
On conseil constitutionnel pour savoir.
Ils ont transmis au bureau qui, le bureau, lui, vient de transmettre à la justice. On en est que là. Et pour l'instant, il n'y a pas d'enquête. Le procureur peut décider de classer sans suite. Pardon. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y ait trois hauts responsables de l'Élysée qui sont soupçonnés, comme l'a rappelé Xavier Couture, un de faux témoignages, mais les autres, j'ai noté les termes utilisés, d'omission, d'incohérence et de contradiction. Et ils ont relevé très précisément. Je crois qu'il y a 18 pages de notes qui assortissent le rapport. Mmh. Ils ont relevé très précisément les omissions et les contradictions.
C'est ça qui montre peut-être qu'il y a quand même une volonté d'en découdre avec...
C'est ce que j'allais peut-être vous dire.
En ce qui concerne les deux, c'est-à-dire...
Benalla et Kras.
Ah non, pardon. Lavergne. Les sénateurs eux-mêmes ne sont pas vraiment certains qu'il y ait quelque chose à leur reprocher.
Mais ils ne parlent pas de faux témoignages, on est bien d'accord. Il y a une incohérence,
etc. Oui, non mais, donc transmettre à la justice, bon, une incohérence, enfin, on se dit que peut-être, mais ce n'est pas sûr, enfin que...
Non mais, alors, si on se dit les choses clairement, Olivier, excusez-moi,
que tout même,
mais, puisque,
alors, c'est dans un contexte de conflit, de toute manière, si entre l'Élysée et le Sénat. Lorsque Emmanuel Macron a écrit sa lettre du 10 janvier, il a demandé aux Français de dire quel était le rôle que devait jouer le Sénat, enfin les parlements et les assemblées, et notamment le Sénat et le Conseil économique et social et environnemental. Donc le Sénat a été rabaissé au niveau de cette troisième assemblée dont beaucoup préconisent la disparition. Et Gérard Larcher avait interpeller Emmanuel Macron en lui disant « Est-ce que vous voulez la peau du Sénat ?»
Et je rappelle qu'il y a une réforme constitutionnelle en projet qui prévoit de supprimer un tiers des sénateurs et de surtout de limiter le nombre de mandats.
Une fois que vous avez dit tout ça, après avoir défendu le rôle du Sénat dans la commission d'enquête, etc.
On peut aussi se dire
ils se vengent,
rien n'est décidé, ils prennent des risques.
On peut avoir envie de déclarer la guerre tout en s'appuyant sur quelque chose qui est solide.
On n'a pas entendu Alexandre.
Il y a peut-être une autre lecture, mais Alexandre avant ça, j'aurais quand même envoyé un petit message de compassion à l'égard de ces trois hauts fonctionnaires qui se retrouvent comme jetés...
De compassion ? Bah non, soit ils sont coupables, soit ils ne le savent pas.
Ils ont fait quoi ? Ils ont protégé le président de la République.
Non, ils ont protégé Alexandre Benalla.
Non, ils ont protégé.
Ils ont présenté l'émission de façon assez floue.
Pour protéger le président de la République, et je pense que ces trois hauts fonctionnaires, comme d'autres qui ont payé, rappelez-vous, il y a eu un certain nombre de commissaires de police et de commandants qui ont été suspendus très rapidement après le début de l'affaire Benalla. Voilà, ce sont des lampistes. Et je trouve que sacrifier ces gens-là sur l'autel de la République, c'est triste. Et ça, c'est la faute du président qui à un moment donné a mis un système en place et qui aujourd'hui qui est condamné. Et rappelez-vous, qu'ils viennent me chercher, ils vont vont chercher ce qu'ils peuvent aller chercher. Donc ces hauts fonctionnaires-là, ces grands serviteurs de l'État, pour eux ce soir, je suis
traité quelqu'un de haute intelligence comme M. Colère de lampiste, je pense que c'est dégradant pour lui.
Eh bien,
il sait très bien ce qu'il a fait. En revanche, les sénateurs eux-mêmes ne l'accusent pas formellement.
Je suis très content de le ramener sur Terre. Après, c'est vrai que moi, je crois personnellement que le Sénat n'avait pas le choix. Dans le contexte actuel d'un pays qui est en ébullition sociale, est-ce que le Sénat, alors que justement le Sénat a des éléments quand même qui sont tangibles, qui disent quelque chose, est-ce que le Sénat, vous voulez dire finalement, on va continuer cet entre-soi et puis on va ranger ça sous un dossier, dans un placard, parce que finalement, il n'y a rien à dire, circuler, rien à voir. Ça, je crois qu'il ne pouvait pas le faire. Deuxièmement, pour aller plus loin...
Donc il y avait matière, en fait.
Non, vous allez deuxièmement après la pub.
Juste pour dire que, juridiquement parlant, ils avaient l'obligation. À partir du moment où on a la conscience d'un délit pénal entre les mains potentiellement, il faut le transmettre à la justice.
Allez, on développe et on continue après la pub.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Faugier.
Allez, on continue avec, sur ce bras de fer entre le Sénat donc, et l'exécutif Emmanuel Macron avec Olivier Mazerolle, Xavier Couture, Virginie Le Guay, Alexandre Malafaye. Si vous voulez bien revenir sur là où on en est ce soir, est-ce que ça va s'arranger ?
Non, ça peut pas s'arranger parce que de toute façon, la fin du film,
Mais c'est ça un peu. La fin du film, c'est quoi la fin du film ?
De deux choses l'une. Ou bien la justice estime qu'effectivement il y a lieu à poursuite et donc ça affaiblira encore davantage Emmanuel Macron, qui est déjà pas dans une situation extrêmement florissante. Ou bien la justice dit, il n'y a rien à voir, finalement. Nous parlons bien sûr des trois collaborateurs d'Emmanuel Macron, on ne parle pas de Benalla et de Traz. Hein.
Bien sûr.
Et la justice dira, il n'y a rien à voir, et vous aurez, évidemment, une majorité de Français qui diront, c'était cousu de fil blanc, la justice n'ose pas s'attaquer à l'Élysée. Voilà. Donc tout ça, c'est néfaste d'avance, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne veuille pas le faire.
Ça va poser aussi une difficulté pour Larcher, parce que je pense que lui avait plutôt, si ce n'est dealé, en tout cas, il avait plutôt l'intention de ne pas transmettre, de ne transmettre évidemment que les dossiers de ceux qui étaient pénalement, visiblement en cause, c'est-à-dire Kras et Benalla. Éventuellement, il aurait pu accepter de transmettre Stroda. Je crois que pour les deux autres, il était plus ennuyé et qu'il a essayé d'empêcher cette transmission. Il a essayé de conseiller ses amis républicains de peut-être épargner ces deux-là. Au motif de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a une réforme constitutionnelle qui se profile à l'horizon, qu'il a négocié et discuté longuement avec le président de la République, qu'il n'a pas envie de voir le Sénat progressivement déshabillé de ses prérogatives. Surtout après l'autre petit croque en jambe qui a été fait par la Républicain sur la loi anti-casseurs, où le fait que le Sénat l'ait voté conforme à l'Assemblée empêchait, on l'a dit ici, la tenue d'une commission mixte
parlementaire. J'entends tout ça, mais c'est quoi donc la suite
La suite, c'est que je crois qu'il va y avoir, et par nécessité, un petit règlement de compte au Sénat entre républicains eux-mêmes.
Mais il n'y a pas que les républicains dans cette affaire.
Il y a les socialistes,
il y a les verts, il y a les républicains.
Et donc, Virginie,
tout ce petit monde-là est dans l'opposition, c'est vrai. Et on peut lui instruire au Sénat le procès de faire de la politique. Mais enfin, tout le monde fait de la politique. Quand Édouard Philippe décide de ne pas aller avec M. Larcher, qui est le second personnage de l'État, il fait de la politique. Tout le monde fait de la politique. Ce n'est pas de la très grande politique. Moi, je trouve que cette affaire est misérable et qu'on nous l'expose depuis maintenant, avant l'été, je crois le mois de juillet. On est en mars, bientôt en avril, et on n'a toujours pas fini de comprendre quel était le rôle exact d'Alexandre Benalla au Sénat, quelles étaient exactement ses missions, pourquoi il n'a pas été suspendu comme il aurait dû l'être, pourquoi finalement il donne l'impression d'être protégé comme il le donne, pourquoi il a eu des téléphones qu'il n'aurait pas dû avoir. Enfin, il y a quand même un traitement qui n'était tout à fait pas normal. Et d'ailleurs, l'Élysée a commencé à se réorganiser, puisqu'on voit déjà qu'il y a un nouveau directeur général des services qui a été nommé. Enfin, il y avait le feu à la maison. Mais peut-être fallait-il qu'il y ait tout ce ramdam fait un tout petit peu à l'Assemblée nationale et beaucoup plus au Sénat pour que l'Élysée accepte de reconnaître qu'il y avait le feu à la maison et que la boutique était très mal gérée.
J'aurais quand même dire que je trouve que la réaction de La République en Marche et du Premier ministre est absolument inadmissible, extrêmement dangereuse. Donner le sentiment qu'on se place soi-même systématiquement au-dessus des lois, au-dessus du regard des autres, au-dessus de la critique portée par les autres, tout ça dans un monde où globalement, à part la sphère politique qui échappe quand même très souvent au coup, dans la vraie vie, Regardez le nombre de chefs d'entreprise qui sont mis en examen, parfois pour des broutilles, de collaborateurs au quotidien qui parfois perdent leur emploi pour des trucs injustes, quelqu'un dans un supermarché qui se fait virer parce qu'il a volé une pomme. Et là, tout d'un coup, ces gens-là pensent qu'ils peuvent s'exonérer de toutes leurs responsabilités. Il y a quand même une affaire, il y a un problème, on verra.
Vous pensez que c'était pas, peut-être que c'est mal... l'effet n'est pas celui recherché, mais c'est pas pour s'exonérer de sa responsabilité. En n'y allant pas, c'est boycottant des gens pour les discréditer. C'est ça l'intention. Alors l'intention est peut-être perçue autrement, mais l'intention, c'est plutôt discrédité. On ne parle pas avec des gens qui ne sont pas dans leur rôle.
Quand on est chef du gouvernement, on a des responsabilités, il faut les assumer. À un moment donné, chacun est dans son rôle. Le Sénat décide d'instruire cette affaire, d'aller au bout, de la transmettre à la justice. Le chef du gouvernement doit dire dont acte, on verra bien. Et tout le monde doit passer à autre chose. Vouloir en faire une affaire politique et instrumentaliser tout cela uniquement pour essayer de s'en sortir et peut-être... Mais surtout, le sentiment que ça donne. Je pense que pour les Français, c'est ce sentiment de volonté, d'impunité, toujours d'être au-dessus, de ne pas être attaqué.
C'est un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Oui. Donc, partir du moment où on considère que ce qui a été fait par le Sénat s'inscrit dans le droit, oui ou non? Si c'est oui, eh bien...
C'est ça qui est contesté par l'Élysée.
J'ai bien compris.
Mais l'Élysée n'a pas contesté.
L'Élysée dit que le Sénat est sorti de son rôle.
Bien sûr, c'est ce que dit l'Élysée, absolument.
Mais souvenez-vous qu'Emmanuel Macron avait appelé Gérard Larcher pour lui dire la commission d'enquête va au-delà de ses prérogatives.
On en redit un mot après la pub et après, on passera à un autre sujet.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Allez, on continue, on termine donc sur cette journée tendue, on va dire, entre les sénateurs et Emmanuel Macron. Vous n'avez pas totalement répondu à ma question parce que vous êtes un peu revenu en arrière. C'est quoi la suite, Virginie Leguet?
La suite, c'est pas compliqué. A transmis à la justice, mais il l'a fait que transmettre.
Non, pas la suite politique, je veux dire, pardon. Pas la suite juridique. De là où on en est ce soir. De la suite politique.
Je sais pas, soit l'Élysée continue à jouer les offensés. Alors là, vraiment, ça devient, moi, je trouve, surjoué et franchement inadapté. Soit on passe à autre chose. Et je ferai remarquer que quand on regarde les différents sondages, les Français, eux, sont passés à autre chose. C'est-à-dire cette affaire Benalla qui au début a passionné les Français, aujourd'hui commence à les agacer sérieusement. Donc l'Élysée ferait mieux de ne pas trop la remettre éternellement au centre de la vie politique française.
Certainement, cela dit, ça va quand même poser une question, parce qu'on va voir combien de temps la justice met pour donner son avis.
Exactement, pour se prononcer
cette affaire,
le procureur.
Et ensuite, évidemment, les trois collaborateurs concernés sont quand même fragilisés. Et par conséquent, désormais on apprend que M. Coller a pris telle position publique, etc., ça fragilise Emmanuel Macron, en réalité, qui est déjà dans de très bons draps.
Dans la nasse.
Qui doit rendre bientôt ses conclusions du grand débat, il se trouve effectivement dans une situation encore plus fragile et il serait sans doute bien épargné cette difficulté complémentaire. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'est pas très loin quand même, parce que les accusations du Sénat, là, ça concerne donc le fonctionnement même de l'Élysée. Moi, le mot n'est pas prononcé. Mais enfin, ça rappelle un petit peu Gaston Monnerville et le général de Gaulle.
Vous rappelez
l'accusant, le général de Gaulle, de forfaiture.
Mais je crois qu'effectivement, là, ça va poser le problème du fonctionnement d'une démocratie qui a une assemblée, enfin qui a un parlement avec deux assemblées. Donc le Sénat, chambre haute, il faut bien quand même qu'il continue à travailler. On a un petit sujet qui est l'après. Moi, je veux bien qu'il y ait... Alors, ce que vous dites, là, Marco, qu'est-ce qui va se passer après? Après, il se passe deux choses, déjà. Concrètement, le Premier ministre fait demi-tour sur la route des réponses qu'il doit faire à l'Assemblée du Sénat.
Lors de la séance des questions au gouvernement.
La séance des questions au gouvernement. Il fait demi-tour. Et donc, met le Sénat en quarantaine, et là, de manière un peu étrange, parce que ça signifierait donc que le Sénat a outrepassé ses droits, en tout cas, c'est de manière un peu implicite ce qu'il dit.
Bah oui, c'est ce qu'il dit, oui.
Oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas lui qui l'a dit, ça, et par ailleurs, il est Premier ministre d'un gouvernement, et il y a des questions au gouvernement. C'est quand même absolument étonnant qu'à la Haute Assemblée, il n'y soit pas. Malgré tout, on vit dans une démocratie qui a besoin de ces deux assemblées, tant que la Constitution est ce qu'elle est. La deuxième chose, c'est qu'effectivement...
Enfin, qui a besoin ou qui subit ces deux assemblées?
Non, mais.
Non, qui a besoin, mais non.
Je sais pas, je pose des questions.
Qui a besoin.
Je ne sais pas, bien sûr, ce n'est pas le premier chef de l'État qui est confronté à un Sénat qui n'est pas tout à fait en ligne avec l'Assemblée nationale. Mmh. Bah, ça s'appelle une démocratie.
On a même connu un chef de l'État qui n'était pas en ligne avec l'Assemblée, il s'appelle Giscard d'Estaing. Et, oui. Sa majorité, qui en principe était là pour le soutenir, lui a scié. La planche sous les pieds.
Il y a eu des cohabitations. Il y avait une assemblée qui n'était pas de la même couleur que le président de la République.
Alexandre, pour conclure et en change de sujet, parce qu'on aura bien.
Je pense que ça va laisser des traces très profondes dans la vie politique française. Qu'il y a un avant et un après. Que il y aura plus de coopération entre la droite et la République en marche. Que c'est une attaque évidemment frontale ou en tout cas perçue comme telle. Et que ça va poser de vraies questions sur le comment. À supposer qu'on arrive à faire un jour naître cette fameuse réforme constitutionnelle. Ou la faire en tout cas, la remettre sur le dessus du projet porté par Emmanuel Macron. Comment on va arriver à transformer ça et quels équilibres on va arriver à dessiner derrière. Ça, pour le coup, ça va être très intéressant.
Allez, on a conclu sur le sujet. Dans un instant, un dernier, Michael Jackson, pédophile. Le doc événement, vous aviez raison Olivier, ça n'a rien de léger.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
Avec Virginie Legui, Alexandre Malafaï, Xavier Couture, Olivier Mazerolle. Michael Jackson n'était pas un pédophile accidentel, mais de carrière. Vous avez entendu lundi soir sur RTL, Dan Reed, le réalisateur du commentaire choc sur le roi de la pop diffusé ce soir en prime time sur M6. Il était donc notre invité, Dan Reed. Porté par le témoignage de deux victimes, il décrit avec plusieurs détails scabreux les viols, les attouchements, l'emprise qu'exerçait Michael Jackson. Mais les fans dénoncent une enquête à charge, défendent coûte que coûte leur idole. Certaines radios, vous l'avez entendu, notamment au Canada, décident de ne plus diffuser des Michael Jackson. On débrief, est-ce que ce documentaire finalement a raison d'exister? Michael Jackson mort, on donne la parole simplement à des victimes, et puis les réactions à ce documentaire, on les débrief sur les réseaux sociaux, Benoît.
Bah en effet, les fans sont furieux et très mobilisés, ils commentent tous les tweets annonçant le reportage. Alia par exemple ne comprend pas le crédit qu'on donne à la parole de seulement deux personnes, il est où le travail journalistique de Reed? Rien de neuf depuis le procès de 2005 dans lequel Michael Jackson avait été acquitté, confirme Gabriel. Il y en a vraiment qui trouvent normal qu'un adulte ne puisse dormir qu'avec des enfants, c'est tout fait. Alors Jacques, je trouve ça inadmissible, même s'il est décédé, mais il y a des vérités qui doivent être rétablies. Quelles vérités? Les décisions de justice, l'acquittement de 14 chefs d'inculpation devant un jury populaire, plus de 10 ans d'enquête du FBI, ça en revanche c'est poubelle, la présomption d'innocence, la diffamation, ça vous parle, s'énerve Momo, 70 flics sont venus fouiller Neverland pour trouver des preuves qu'ils n'ont jamais trouvées, mais ça ne suffit pas, soupire Rémi, et Diego d'insister que malgré ce film, la justice américaine a refusé de rouvrir l'enquête. D'autres au contraire parle de documentaire insoutenable mais indispensable, même si c'était un grand chanteur, là je ne peux plus l'écouter, c'est fini, lâche Fred Lille. Eric Nolot aussi recommande ce très convaincant documentaire à propos du système de prédation pédophile organisé par Michael Jackson. Mouais, si on s'occupait plutôt des pédophiles vivants, conclut Asfa.
Xavier Couture, vous avez dirigé des chaînes de télévision, vous auriez diffusé ce documentaire?
Oui, sans doute. C'est pas le documentaire est plutôt bien fait.
Sans doute, la question peut se poser.
Enfin, sans doute parce que lorsque vous dirigez un grand média et que vous avez à disposition un document de cette portée médiatique, vous vous dites que dans le fond, ça va un intéresser le public, que deux, Michael Jackson est une personnalité exceptionnelle et que ça va attirer l'audience que vous attendez.
Vous êtes d'un cynisme incroyable. J'ai dirigé une chaîne de
Marco,
télé, donc ça allait marcher, donc
Marco,
je l'ai fait.
Vous me posez une question et je suis obligé de vous répondre avec le cynisme qui est celui d'un programmateur
pas sous
de télévision. Moi, en revanche, à titre personnel...
Non mais vous avez plein... sur le fond, il y a plein de choses que vous n'avez pas diffusées parce que ça a heurté un certain nombre de vos convictions ou déontologies, etc. et qui auraient cartonné... Et vous les avez donc
non, là,
c'est une
pas,
réponse
non,
un peu rapide.
Un document scandaleux.
Si.
Il se trouve qu'il y a, il y a un certain nombre.
Non, mais scandaleux. Je dis pas qu'il faut pas le diffuser, mais oui, c'est,
non,
ça,
mais
ça.
Qu'il révèle
il
un scandale.
Le scandale. Non, il le nourrit.
Il révèle, il nourrit et révèle pour une grande partie de l'opinion internationale, parce que ce documentaire est diffusé dans de nombreux pays, il nourrit et révèle le scandale. Maintenant, est-ce que je l'aurais diffusé? La réponse est oui. Maintenant, est-ce que j'en aurais été heureux? La réponse est non. Je pense qu'avec parce que ça aurait fait de l'audience, oui, mais moi, à titre personnel, je trouve que avec les années qui nous séparent de la mort de Michael Jackson et un certain nombre de doutes sur la réalité des faits, j'avoue que cette histoire a quelque chose d'un tout petit peu sulfureux, et moi,
je dois préciser quand même que ça gêne tellement qu'à l'issue du documentaire, qui est très long est réussi par ailleurs, mais il y a un débat mené par Nathalie Renoux pour justement débriefer de tout ça.
Oui, un débat c'est toujours facile pour pouvoir diffuser en prime time ce qu'on a envie de diffuser pour faire beaucoup d'audience et ramasser de la pub.
Je rappelle que c'est sur M6, patron de propriétaire d'RTL.
Oui, non, mais bien sûr, non, mais de toute façon, à sa place, j'aurais fait la même chose, donc je suis en train de le dire.
Alors, je dirais deux choses. Et d'abord, ce documentaire n'est pas diffusé en intégrale. Il y a 2 fois 90 minutes entrecoupées effectivement par de la pub, comme quoi je pense qu'ils n'ont pas eu de mal à remplir la soirée de pub. Non, mais l'effet annonce, la polémique, tout ça a dû beaucoup jouer aussi dans ça. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est le rôle qu'a joué l'argent. L'argent pour parfois passer des arrangements à l'amiable avec des familles dont les enfants auraient été abusés. L'argent, parce que les deux qu'on va entendre ce soir, pendant des années, ils ont d'abord dit exactement le contraire que ce qu'ils disent ce soir. Et en plus, ils ont cherché à obtenir de l'argent de Michael Jackson, puis de sa famille. Je rappelle
Avez entendu il y a 10 ans, ce que dit Dan Reed, le
document. En 2009.
C'est que ce qui fait qu'aujourd'hui, il parle, c'est qu'à l'époque, ils étaient dans une forme de déni, ils n'étaient pas prêts à parler.
Enfin, la forme de déni, ils réclamaient de l'argent quand même. Hein. Donc,
Je vous dis ce qu'il dit.
Oui.
Et que c'est que il parle que maintenant, parce qu'à l'époque, il ne réalisait pas trop où étaient les difficultés.
Non, il ne savait pas du tout.
Je ne les connais pas, mais ça arrive.
On peut imaginer qu'il ne savait pas du tout ce qui lui était arrivé.
Ah, mais non, mais ils peuvent, c'est possible.
Si ce qu'il raconte est exact, il n'avait aucune notion de ce qui lui était arrivé, évidemment. Quand il avait déjà 22 ou 23 ans, je crois, non, il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé quand il avait 7 ans.
Excusez-moi, c'est possible, Olivier.
Oui. Mais alors, dans ces conditions, il n'était pas obligé d'aller témoigner au procès Michael Jackson ne lui avait strictement rien fait.
Ce qui est vrai, c'est que les faits sont prescrits. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, je crois que les deux qui vont s'exprimer ce soir, ils ont 36 et 41 ans. Et que ça s'est passé vraiment dans leur toute petite enfance. Mais moi, je suis très gênée de voir que partout...
Avec l'assentiment de leurs parents, je ne dis pas pour les actes, mais en tout cas Michael Jackson était un grand frère formidable.
Et que certaines familles se sont arrangées pour ne pas porter plainte en touchant de l'argent. Mmh. Notamment le fils de son ancienne femme de ménage qui lui aussi aurait obtenu, j'ai lu ça parce que j'ai regardé le dossier en entier, obtenu un dédommagement de 2,4 millions de dollars. Donc finalement, partout, on voit qu'il y a eu des arrangements et ça évite, je trouve, que la vérité apparaisse très clairement. Mmh. Et donc, il y a des zones d'ombre, des allers-retours tout le temps constants entre ceux qui se plaignaient pas hier et qui se plaignent aujourd'hui parce que là, il n'y a plus d'argent à réclamer.
Accusé, quand même, pour le rappeler, accusé, c'est pas dire la justice. Et quand on parle de justice post-mortem, il faut quand même qu'elle se fasse sur la base de preuves irréfutables et non pas de déclarations qui aujourd'hui sont totalement invérifiables. Alors on peut après se poser la question du à qui profite le crime, pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui et qu'est-ce que ça rapporte et à qui. Après, ça pose de vraies questions intéressantes sur la problématique de l'artiste et de son œuvre. Très intéressante. Et avec toute cette polémique sur le boycott. Ça va très loin. Alors après, on parle d'artistes ou on parle de sportifs. Regardez, si on fait une incursion par la case du sport, avec par exemple Tiger Woods, c'était pas de la pédophilie, mais c'était des dérives sexuelles apparemment préoccupantes, qui a été complètement abandonné par tous ses sponsors, qui a été déchu de son trône de roi mondial du golf. Voilà. Mais dans d'autres registres, regardez Gauguin. Gauguin, qui a quand même eu une vie sexuelle avec des jeunes filles mariées à 13 ans, etc. Est-ce qu'on a boycotté son œuvre pour autant ? Donc, ça pose de vraies questions. Voilà, il y a l'artiste d'un côté, il y a son œuvre, il y a peut-être de la fumée autour d'un artiste, mais est-ce que ça remet en cause la qualité de son travail ? Parce qu'on peut aller très loin, on pourrait dire, et si Pasteur avait été pédophile, est-ce qu'on remet en cause le bilan de Pasteur et l'acquis de Pasteur à la société ?
Olivier, est-ce que ça discrédite l'artiste, ses présumés agissements ?
Je veux dire, Michael Jackson, je fais partie des rares personnes au monde qui ne se sont pas vraiment passionnées pour son œuvre. Par conséquent, je suis tout à fait détendu à cet égard. Donc, je suis pas attristé par cette polémique le concernant, parce que pour moi, ce n'est pas une idole qui dégringole. En revanche, je suis très attristé par le comportement de ceux qui se vautrent dans le traitement de la perversité, qu'elle soit avérée ou pas, peu importe, pour se donner bonne conscience, parce qu'ils ont soutenu, au-delà de toute mesure, un artiste à une époque où il était au sommet, et alors partout, on ne pouvait pas franchir une porte sans entendre parler de Michael Jackson ceci, Michael Jackson cela, il est formidable, machin, c'était le maître tout puissant de la terre entière, et aujourd'hui, on veut le dégommer. Bon, pourquoi ? Je n'en sais rien. À vrai dire, je vais vous dire sincèrement, je m'en fous. Et surtout, je ne supporte pas qu'on cherche à se donner bonne conscience une fois qu'un type est mort. Voilà.
C'est une formidable construction médiatique, Michael Jackson. À 5 ans, il est pris en main par sa famille, il monte sur les planches. Qu'est-ce qu'il a subi lui-même ? La violence de son père, sans doute. Donc, il
a eu une vie absolument invraisemblable.
Mais aujourd'hui, pour comprendre, l'œuvre
toute la construction,
ses agissements,
toute la construction médiatique, toute la construction médiatique repose sur la construction d'une œuvre qui est celle d'un génie musical qui a été fabriqué par Quincy Jones, Teddy Riley et Michael Jackson. Aujourd'hui, pour les mêmes raisons financières, on est en train de faire de la déconstruction médiatique. Et donc, c'est toujours la même chose. Autour de Michael Jackson, la seule chose qui compte, c'est le dollar. Pour les faits eux-mêmes, moi, je n'en sais rien. Je doute d'ailleurs qu'on sache réellement la vérité
un jour. Je rappelle que le seul procès qui a lieu en 2005, 9 voix se sont prononcées pour l'acquitter contre 3. Et ce procès a duré de janvier à mai 2005.
Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Le documentaire à suivre tout à l'heure, donc sur M6. Dans un instant, le flash de 20h. Et ensuite, ce sera Jacques Pradel sur RTL.